Donc on va continuer notre... on est dans notre 12e leçon, dans notre série sur « Glorifiez Dieu dans votre corps ». Ce soir, on va continuer dans ce qu'on avait commencé à étudier la semaine dernière, donc la sexualité et Dieu, la sexualité et la Bible, et comment... Et ce soir, on va regarder le titre du message que j'ai donné ce soir, c'est « Les dons de Dieu pour la pureté sexuelle des chrétiens ». Donc, on a vu qu'en général, on observe une multitude de dépravations, de toutes sortes de choses sexuelles impures dans le monde. Mais on sera porté à penser que les mêmes choses n'existent pas chez les chrétiens. Cependant, quand on se met à regarder un petit peu combien de chrétiens sont pognés par la pornographie, et par d'autres affaires, d'autres genres de péchés de type sexuel. On se rend compte que, dans le fond, je ne dirais pas qu'il y en a autant dans l'Église qu'il y en a dans le monde, mais il y en a quand même. À quelque part, Dieu nous a donné, le titre de la leçon ce soir, c'est « Les dons de Dieu pour la pureté sexuelle des chrétiens ». Autrement dit, Dieu ne fait pas juste nous mettre un idéal élevé qu'on ne peut pas atteindre. Il nous donne un idéal très élevé, mais il nous a donné aussi les moyens pour qu'on puisse atteindre la pureté sexuelle des chrétiens. Donc, on va faire une brève révision de ce qu'on a vu dans les deux leçons précédentes. On avait examiné trois principes de base pour l'étude de la pensée biblique sur la sexualité. Le premier principe, c'est le fait indéniable que la sexualité humaine est un don divin et non de Satan. Parce qu'il était longtemps dans l'Église, en tout cas si on regarde l'Église dans son ensemble de tous ceux qui professent le nom de chrétien, où la sexualité était présentée comme si c'était plus Satan qui contrôlait ça que Dieu. C'est Dieu qui a permis que la sexualité soit donnée aux hommes. Le deuxième principe, c'est que le Seigneur a le droit absolu d'encadrer l'exercice de la sexualité. Autrement dit, il nous en a donné un cadeau, mais il nous a montré aussi, dans les Écritures, comment elle doit s'exercer selon sa volonté. Et donc, on avait vu que sa manière de nous enseigner l'encadrement, c'était dans les 10 commandements, si je me souviens bien, c'était le 7e et le 10e, dont on parle spécifiquement de ça, mais aussi une multitude d'autres passages dans l'ensemble des livres des Écritures où il y a toutes sortes de principes et de choses qui nous sont enseignées par le Seigneur sur comment on doit, comme chrétien, vivre notre sexualité. Et le troisième principe, c'est que, et celui-là est très important, parce que je trouve que le pasteur Albert Martin a pris un soin particulier à choisir son vocabulaire, à peser ses mots quand il parle de ce sujet-là. Et le troisième principe, il s'exprimait de la façon suivante. L'indulgence, la rébellion et l'endurcissement volontaire dans les pensées et les pratiques sexuelles non bibliques peut empêcher une personne d'aller au ciel et peut entraîner le résultat de la damnation éternelle dans l'enfer. Donc, on le relit parce que c'est très important. L'indulgence, autrement dit, l'indulgence, ça veut dire se complaire dans quelque chose, mais on pense qu'on n'ira pas en enfer à cause de ça. L'indulgence, c'est se complaire. La rébellion, autrement dit, tu sais ce que Dieu dit, mais tu le fais pareil. Et l'endurcissement volontaire. L'endurcissement volontaire, c'est que c'est pas que tu ne sais pas, tu le sais, mais tu le fais pareil, puis tu continues à le pratiquer pareil. Dans les pensées, voyez-vous, les mots, quand je vous disais qu'ils pèsent ces mots, c'est que ça pourrait arriver que quelqu'un n'ait jamais fait dans la pratique ces choses de sexualité-là, puis qu'aux yeux de Dieu, il soit encore coupable. Parce que la vie, tu sais, quand le Seigneur, dans Matthieu sermon sur la montagne, Matthieu 5 à Matthieu 7, le Seigneur a montré aux pharisiens que la désobéissance au commandement, c'était pas juste le désobéir... Dans les faits, dans la pratique, dans nos comportements. Il dit, il ramène ça même à la pensée. Quelqu'un pourrait être, par exemple, un dépravé extrême dans sa pensée, sans qu'il y ait une dépravation extrême dans son comportement. Mais le Seigneur dit que c'est aussi grave dans ta pensée Parce que le Seigneur, il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, il, c'est comme s'il avait commis l'adultère dans son cœur. Alors, faut pas penser que quelqu'un qui a des comportements sexuels anormaux ou non bibliques, ou qui entretient des pensées continuellement, que ça n'aura pas des conséquences. Donc, les conséquences, c'est que ça peut empêcher une personne d'aller au ciel, et si tu ne vas pas au ciel, ben, tu vas aller en enfer. À quelque part, les trois principes de base sont extrêmement importants. Dans la présente leçon, celle qu'on va voir à soir, on va étudier la vérité suivante, telle qu'exprimée, encore une fois, par le pasteur Albert Martin dans son étude, qui s'appelle « Divine Antidote to Sexual Impurity ». Autrement dit, l'antidote divin à l'impureté sexuelle. Alors, il y a 6 sermons qu'il a fait sur le sujet, que je trouve excellent d'ailleurs. Alors, voici ce qu'il dit pour exprimer tout le sujet de ce qu'on va regarder ce soir. Il l'exprime dans une phrase, mais cette phrase-là est très dense et elle est très significative. Alors, il affirme avoir rédigé cette affirmation en se basant strictement sur les textes des Saintes Écritures et en prenant un soin particulier à choisir chacun des mots. Voici ce qu'il dit. Une participation réelle à la dynamique de la grâce salvatrice nous délivrera de la domination du péché, y compris les péchés sexuels, et nous préparera, dans le sens de nous équiper, à une croissance progressive dans la pureté sexuelle. Une petite phrase, hein? Mais il y a du stock dedans. Vous allez voir que juste la phrase, quand on la dissèque, là, ça fait trois parties qui sont très importantes à comprendre, parce qu'on ne se débarrassera d'aucun mauvais comportement qui ne sont pas bibliques si on n'applique pas les trois principes qu'on va étudier ce soir. Alors, l'affirmation, elle comprend 3 idées. La première, c'est qu'on n'arrivera jamais à se débarrasser de ces choses-là, que ce soit la pornographie, l'homosexualité, le lesbianisme, quelques péchés que ce soit de nature sexuelle qui est non biblique, on n'arrivera jamais à s'en débarrasser si on n'a pas reçu la grâce salvatrice souveraine de Dieu. Autrement dit, un païen, même s'il fait des efforts, il s'en sortira jamais. C'est juste le fait que Dieu t'a sauvé, il t'a placé en Jésus-Christ et il t'a donné le Saint-Esprit qui fait en sorte que tu vas pouvoir, oui, te libérer graduellement, ça le dit bien, hein? Ça dit, il nous préparera, il nous équipera à une croissance progressive. Donc, ça va se faire progressivement, mais dans une direction bien précise, celle de la pureté sexuelle. Autrement dit, plus tu crois dans le Seigneur, plus tu devrais arriver à une libération et à une croissance spirituelle dans la pureté sexuelle. Donc, elle comprend 3 idées. La grâce salvatrice, autrement dit, tu n'y arriveras jamais s'il n'y a pas de la grâce reçue de Dieu dans ta vie. La deuxième, c'est que Dieu, lorsqu'il te sauve, il dit à maintes et maintes reprises, on va regarder tantôt les passages où il l'affirme, Dieu nous a sauvés pour nous délivrer. Il y a plein de passages où Dieu dit, je t'ai pas sauvé pour te laisser dans tes péchés. Je t'ai sauvé pour te délivrer. Délivrer, on sait ce que ça veut dire. Alors, Dieu veut nous délivrer. Et la troisième, c'est celle de la croissance progressive. Autrement dit, Dieu nous prend d'un point. Quand on arrive au Seigneur, on peut être dans un état bien particulier qui est mauvais, parce qu'on a pratiqué une certaine forme de péché pendant des années. Et le Seigneur dit qu'il va te donner ce qu'il faut par le Saint-Esprit pour te libérer graduellement de cela. Ça, c'est les 3 principes qu'on va étudier ce soir. Ils sont très importants. Parce que si quelqu'un pense qu'il y a des péchés sexuels dans sa vie, puis qu'il pense à s'en sauver s'il n'est pas né de nouveau, il va avoir bien des difficultés. La deuxième, c'est Dieu te délivre. Quand il te sauve, il te délivre. Non seulement du péché sexuel, mais de toutes les formes de péché. S'il y a un péché dans ta vie, tu t'en rends compte, tu décides d'arrêter, si tu essaies de le faire tout seul, puis tu ne demandes pas l'aide de Dieu, puis tu ne pries pas pour l'aide de Dieu dans ce que tu vis, dans le combat que tu fais, tu vas perdre. Il faut toujours, que ce soit dans le domaine sexuel ou dans quelque autre domaine que ce soit, du péché. Alors, c'est ça que ça prend. Alors, on va maintenant développer ces trois dons de Dieu, parce que c'est trois choses que Dieu a données aux chrétiens, à son peuple, pour se sortir de cela. Alors, le premier don de Dieu pour la pureté sexuelle, c'est la grâce salvatrice. La grâce d'avoir reçu de Dieu la lumière nécessaire pour comprendre que tu es un pécheur perdu, condamné à l'enfer, et que tu comprends par le Saint-Esprit que Dieu te ouvre les yeux sur la seule personne qui peut te sauver de tout cela, c'est Jésus-Christ. Alors, la première partie de l'affirmation se lisait comme suit, une participation réelle à la dynamique de la grâce salvatrice. La dynamique, c'est quelque chose qui bouge. Une participation réelle, ça veut dire qu'il faut que tu participes, et la dynamique de la grâce salvatrice. Alors, la pureté sexuelle, selon la Bible, est inaccessible à un être humain qui n'a pas reçu la grâce du salut du Dieu souverain. Et on va aller lire Jean chapitre 3. On connaît tous, c'est un passage qui nous est très familier, on l'a lu maintes et maintes reprises. Je la lis dans la version Sterval, Jean chapitre 3, versets 1 à 16. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. » Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fameux passage, tout le passage parle de la nécessité de la nouvelle naissance, autrement dit, naître de nouveau, que tu sois vraiment régénéré par le Saint-Esprit, que tu aies reçu la grâce salvatrice, comme on parlait tantôt au début. Alors, seuls les réels croyants nés de nouveau ou nés d'en haut, par le Saint-Esprit et par grâce, peuvent bénéficier des forces et des puissances nécessaires pour vaincre le péché sous toutes ses formes et le péché sexuel de façon particulière. Alors, l'affirmation mentionne aussi le mot « réel » pour la différencier de la pseudo-foi fausse. Pseudo, ça veut dire c'est pas la vraie foi. C'est de la foi qui est fausse. Il y a beaucoup de gens qui prétendent croire, mais ils ne croient pas véritablement selon ce que les Écritures enseignent. Alors, on a par exemple, pour nous parler de ça, 1 Jean chapitre 1, verset 6. Et ça, c'est important. Quelqu'un qui dit croire, qu'il n'y a pas de comportement et de changement concret dans sa vie, il est, selon les Écritures, un menteur. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 1, verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » 1 Jean, chapitre 2, verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, et ici, il y a un petit mot très important, aimant le plaisir plus que Dieu. On vit dans une société comme ça. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible est en train de te dire qu'il y a des hommes qui vont prétendre être croyants, mais que dans le fond, c'est leur pratique, c'est leur façon de vivre de tous les jours qui va démontrer que ce n'est pas de la foi véritable. Parce qu'il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la réalité, l'authenticité de ta repentance. C'est l'obéissance à Dieu. Si quelqu'un prétend qu'il est croyant, puis que durant la semaine, il vit une vie de débauche, oublie ça, là. Il se fait des illusions. Alors, on poursuit notre étude, qui dit, de l'affirmation, qui dit une participation réelle à la dynamique de la grâce souveraine. Là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que tu veux dire, Marcel, par la dynamique de la grâce souveraine? Mais je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce que la dynamique de la grâce souveraine? Elle comprend, premièrement, la nouvelle naissance. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais où il vient, tu ne sais où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, premier principe, qu'est-ce que c'est la dynamique de la grâce souveraine? C'est la nouvelle naissance, ça c'est le premier. Un autre? La nouvelle création, la Bible dit que lorsque Dieu nous sauve, on devient comme une nouvelle création, une nouvelle créature, dépendamment des versions, une qui utilise le mot création, puis une autre qui utilise le mot créature. C'est comme si on était une nouvelle créature, l'ancienne. Alors, on lit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je vais vous le lire dans trois versions différentes, vous allez voir les petites différences. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Version Martin 17:44. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est nouveau. On est nouveau. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Louis Sagan, 1910. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Soit une nouvelle création, une nouvelle créature, mais en tout cas, la dynamique de la grâce souveraine, c'est qu'on est né de nouveau et qu'on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. La troisième, c'est qu'on est uni à la personne de Jésus-Christ. Et c'est pas normal qu'une personne qui est unie à la personne de Jésus-Christ persévère, continue de façon régulière dans ses péchés, de quelque nature que ce soit, et les péchés sexuels de façon particulière. Ça dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » On n'a pas été créé pour mener une vie de débauche, on a été créé pour faire des bonnes œuvres. « Ce que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, trois choses, nouvelle naissance, nouvelle création, nouvelle union avec Jésus-Christ. Aussi, autre chose que l'Ancien Testament avait promis à celui qui deviendrait en Jésus-Christ, qui est donné dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Il y a beaucoup de nouveaux, hein, tout ça, tout des nouveaux. « Un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est quoi qu'il est en train de nous promettre? Il va nous donner le Saint-Esprit. On n'aura pas un cœur dur comme avant, on va avoir un cœur qui va être sensible à ce que Dieu veut, à la volonté de Dieu. Donc, quatre choses. Qu'est-ce que la grâce dynamique de la grâce salvatrice? La nouvelle naissance. On est une nouvelle création ou une nouvelle créature. On est nouvellement unis en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Et la quatrième, le Seigneur dit qu'il nous donnerait un cœur de chair et qu'il nous donnerait le Saint-Esprit. Autre chose, cinquième chose, ça s'entend qu'on prend cinq. La cinquième chose, c'est on a devant Dieu un nouveau statut. On est devenu adopté de Dieu. Tu sais, quand on dit quelqu'un est adopté, disons, il est à la crèche, quelqu'un y va, il le ramasse, il l'emmène chez eux, il lui donne son nom, bien souvent, il lui donne tout ce qu'il faut. Bien là, nous, on n'est pas été adopté par n'importe qui. On a été adopté par Dieu le Père. Ça se dit dans Galates chapitre 4, versets 3 à 6. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ce n'est pas une petite chose, mes amis, l'adoption. Olivier Favre, celui qui écrit le bon fondement, a fait une série de quatre sermons sur le sujet de l'adoption. Un bijou. Vraiment, quand on pense qu'on comprend ce que c'est l'adoption, on a besoin de réécouter les sermons parfois. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit avec un E majuscule. Autrement dit, Dieu nous a envoyé dans notre cœur le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu va se complaire à vivre dans un cœur rempli de péché? Non. Son rôle, c'est de nous débarrasser de la domination du péché dans nos vies sous toutes ses formes, graduellement. Et Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Apparemment, le mot « Abba » veut dire « petit papa d'amour ». Tu es en train de dire dans nos cœurs, on dit « petit papa d'amour ». On parle à Dieu le Père. Deuxième don de Dieu pour la pureté sexuelle des chrétiens, la délivrance. Donc, la première chose, il faut avoir la grâce de Dieu, sinon ça ne fonctionnera pas. Deuxième chose, Dieu nous dit que lorsqu'il nous sauve, il ne nous reste pas dans cet état-là. Il nous change. Alors, continuons l'affirmation du pasteur Martin, la deuxième partie de sa phrase, qui est dans le texte. Alors, il se disait dans la première partie, une participation réelle à la dynamique de la grâce salvatrice. Et la deuxième partie, c'est seul à la grâce salvatrice nous délivrera de la domination du péché, en général, y compris des péchés sexuels. Alors, la délivrance et la domination du péché font partie intégrante du plan du salut de Dieu. Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Affranchira, ça veut dire quoi, ça? La vérité va te délivrer de toutes sortes de choses. Romains 6, versets 14 et 15, pour moi qui l'invente, c'est la parole qu'il dit. Romains 6, versets 14 et 15, « Car le péché ne dominera pas sur vous. » Hey, c'est une grosse phrase, ça. Le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherons-nous, parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Galates, chapitre 5, versets 16 à 24. Et après ça, un autre passage, et on va arrêter là pour cette semaine. Galates 5, versets 16 à 24. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et n'accomplissez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez, que si vous êtes conduit par l'esprit, Vous n'êtes donc point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Écoutez bien, les œuvres de la chair. Le premier mot qui apparaît dans les œuvres de la chair. Retenez, faites attention. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, le premier mot qui vient, l'adultère. Le deuxième mot, la fornication. Le troisième mot, l'impureté. Le quatrième mot, la dissolution. Quatre mots qui ont tout un rapport avec la sexualité. Après ça, il dit, il continue dans la série des autres péchés qui sont de la chair, l'idolâtrie, les enchantements. Les enchantements, c'est la drogue. Après ça, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Voyez-vous, juste dans cette série de mots, il y a au moins cinq mots qui ont une référence directe à la sexualité. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Et on termine par un dernier passage, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 10 et 11. Très intéressant de faire attention à ce que Dieu dit. Hein. Portez attention à ce qu'il dit. Sinon, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Mais faisons attention à ça. Il dit, ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ça c'est les homosexuels, ni les infâmes, c'est une autre forme d'homosexualité. Bon. Aujourd'hui, le but n'est pas nécessairement d'étudier le texte, mais ça a un rapport, je sais, parce que je l'ai déjà étudié. Ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Or, c'est là ce qui était quelques-uns de vous. Il est en train de dire que dans le groupe de chrétiens qui parlait chez les Corinthiens, il y en avait qui étaient des péchés qu'on a vus depuis le début. Il dit que vous étiez. Ça, c'est au passé. C'est là ce qui était quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. On termine.